Robert Louis Stevenson, Le Maître de Ballantrae, Chapitre 4. Persécution que subit Mr. Henry. On devine sur quelle partie de ses aventures le colonel s'étendit principalement. À coup sûr, si nous les avions ouïs au complet, il est à croire que le cours des événements eût été modifié de beaucoup. L'épisode du bateau pirate fut très expurgé. Et je n'entendis même pas jusqu'à la fin ce que le colonel voulut bien en révéler, car Mr. Henry, qui depuis un moment paraissait plongé en de sombres réflexions, se leva de son siège et, s'excusant auprès du colonel sur ce que des affaires le réclamaient, m'ordonna de le suivre au bureau. Une fois là, il ne chercha plus à dissimuler son souci et se mit à marcher de long en large avec un visage bouleversé et se passant la main sur le front à diverses reprises. « Nous avons affaire, » commença-t-il enfin. Mais il s'interrompit, déclara qu'il nous fallait boire un coup de vin et envoya chercher un magnum du meilleur. Ceci était tout à fait en dehors de ses habitudes, et davantage, quand le vin fut apporté, il avala coup sur coup deux verres, comme insoucieux de tout décorum. Mais de boire le remonta. « Vous ne serez pas étonné, MacKellar, dit-il, d'apprendre que mon frère, que nous sommes tous heureux de savoir en sûreté, se trouve dans un certain besoin d'argent. » Je lui répondis que je m'en doutais, mais que le moment était mal choisi, car les fonds étaient bas. « Pas les miens, dit-il. Il y a l'argent pour l'hypothèque. » Je lui rappelai que cette somme appartenait à Madame Henry. « J'en répondrai auprès de ma femme, répliqua-t-il violemment. « Et puis, ajoutai-je, il y a l'hypothèque elle-même. » « Je sais, dit-il, et c'est là-dessus que je voulais vous consulter. » Je lui fis voir que ce n'était pas du tout le moment de détourner ces fonds de leur destination, et aussi que, ce faisant, nous perdions le bénéfice de nos économies passées pour replonger le domaine dans le bourbier. Je pris même la liberté de lui faire des remontrances, et comme il persistait à m'opposer le même hochement de tête et un sourire d'amère résolution, mon zèle m'emporta tout à fait hors de mon rôle. « Mais c'est de la folie en plein, m'écriai-je, et quant à moi, je n'y prendrai aucune part. » « Vous avez l'air de vous figurer que je le fais pour mon plaisir, dit-il, mais j'ai maintenant un enfant, et de plus, j'aime l'ordre, et pour dire la simple vérité, MacKellar, je commençais à mettre ma fierté dans le domaine. » Il réfléchit une minute. « Mais que voulez-vous, poursuivit-il, rien n'est à moi, rien. Depuis ce que je viens d'apprendre, mon existence a perdu toute valeur. » Je suis réduit au nom et à l'ombre des choses. Oui, à l'ombre. Il n'y a pas de réalité dans mes droits. Ils se trouveront assez réels devant les tribunaux, répliquai-je. Il me jeta un regard enflammé et parut sur le point de dire quelque chose. Et je me repentis de ce que je venais de dire, car je voyais que, tout en parlant du domaine, il avait aussi en vue son mariage. Et alors, brusquement, il tira de sa poche la lettre toute froissée, la lissa sur la table avec rage et me lut d'une voix tremblante ces mots. « Mon cher Jacob, voilà comme il débute, s'écria-t-il. Mon cher Jacob, je vous ai donné ce nom une fois, vous vous le rappelez sans doute, et vous avez à présent réalisé la chose et m'avez envoyé par-dessus les moulins. Que pensez-vous de ceci, MacKellar, venant d'un frère unique ? J'affirme devant Dieu que je l'aimais bien, je lui fus toujours attaché, et voilà ce qu'il m'écrit. Mais je ne veux pas rester sous cette imputation, marchant de long en large. Je le vaux bien, je vaux mieux que lui, je le prouverai devant Dieu. Je ne saurais lui donner les sommes énormes qu'il réclame, il sait que nos biens n'y suffiraient pas, mais je veux lui donner ce que j'ai, et c'est plus qu'il n'espère. J'ai supporté tout ceci trop longtemps. Voyez ce qu'il écrit encore, lisez vous-même. Je vous connais pour un chien d'avaricieux. Un chien d'avaricieux, moi, avaricieux. Est-ce vrai, MacKellar? Le croyez-vous? Je pensais réellement qu'il allait me frapper. Oh, vous le croyez tous ! Eh bien, vous verrez, et il verra, et Dieu verra. Dussé-je ruiner le domaine et aller nu-pied, je gorgerai cette sangsue. Qu'il demande tout, tout, et il l'aura. Tout est à lui, régulièrement. Ah ! S'écria-t-il. Et dire que j'avais prévu tout ceci, et pis même quand il refusa de me laisser partir. Il se versa encore un verre de vin, et allait le porter à ses lèvres quand je me permis de poser le doigt sur son bras. Il s'arrêta. « Vous avez raison, » dit-il, et il jeta dans l'âtre le verre avec son contenu. « Allons compter l'argent. » Je n'osais plus l'empêcher. D'ailleurs, j'étais fort affecté de voir tellement bouleversé un homme d'habitude si retenu. Je m'assis à côté de lui, comptai l'argent et l'empaquetai, pour la plus grande commodité du colonel, qui devait le prendre avec lui. Ceci fait, Mr. Henry s'en retourna dans la salle, où Mylord et lui passèrent la nuit à causer avec leur hôte. Un peu avant l'aube, on m'appela pour escorter le colonel. Il eût préféré sans doute un autre convoyeur, car il s'estimait beaucoup, mais nous ne pûmes lui en offrir un plus digne, car Mr. Henry ne devait pas se faire voir avec les contrebandiers. C'était une matinée de vent très âpre, et comme nous descendions sous la grande charmille, le colonel s'emmitoufla dans son manteau. « Monsieur, dis-je, c'est une grosse somme d'argent que réclame votre ami. Je suppose qu'il a de très grands besoins. »« Supposons-le, dit-il. Un peu sèchement, pensais-je, mais c'était peut-être à cause du manteau qu'il avait sur la bouche. « Je ne suis que le serviteur de la famille, repris-je. » Vous pouvez causer sans détour avec moi. Je pense que nous n'avons pas grand-chose de bon à espérer de lui. Mon cher ami, dit le colonel, Ballantrae est un gentilhomme des plus hautes capacités naturelles, et je l'admire et le révère jusqu'à la semelle de ses bottes. Et alors il me parut qu'il rencontrait une difficulté. Mais malgré tout, dis-je, nous n'avons pas grand-chose de bon à espérer de lui. « Pour sûr, et vous avez raison de le croire, mon cher ami, » dit le colonel. Nous étions arrivés au bord de la crique où le canot l'attendait. « Eh bien, dit-il, je reste à coup sûr votre débiteur pour vos civilités, monsieur, quel est votre nom. Et pour dernier mot, et puisque vous montrez une curiosité si intelligente, je vous confierai un petit détail qui peut servir à la famille. » Car je crois que mon ami a oublié de mentionner que le secours écossais lui sert une pension plus forte qu'à aucun réfugié de Paris. Et le plus honteux, monsieur, ajouta-t-il en s'échauffant, c'est qu'ils n'ont pas un traître sou pour moi. Il mit son chapeau de côté en me regardant, comme s'il me rendait responsable de cette injustice. Puis il revint à son habituel excès de politesse, me serra la main et descendit vers le canot, son argent sous le bras, et sifflant l'air pathétique de Shularoon. C'était la première fois que j'entendais cet air. Je devais l'entendre à nouveau avec les paroles, comme on le verra, mais je me souviens que cette simple mesure me trotta dans la tête après que les contrebandiers l'eurent fait taire d'un « Chut, au nom du diable !» Les avirons grincèrent, et je restai à regarder l'aube se répandre sur la mer, où le canot s'éloignait, vers le lougre qui l'attendait, sa voile d'avant masquée. La brèche faite à notre budget nous embarrassa beaucoup, et entre autres conséquences, il me fallut faire le voyage d'Édimbourg, et là obtenir un nouveau prêt, à des conditions fort onéreuses, pour maintenir l'autre à flot. Et je fus ainsi pendant près de 3 semaines, absent du château de Durrisdeer. Ce qui se passa dans l'intervalle, je n'eus personne pour me le raconter. Mais à mon retour, je trouvai Madame Henry fort changée d'allure. Les entretiens de jadis avec Mylord étaient devenus rares. Elle avait parfois l'air d'adresser comme une prière muette à son mari, et il me sembla qu'elle lui parlait plus souvent. Enfin, elle était absolument férue de Miss Catherine. On croit peut-être que ce changement était agréable à Mr. Henry. En aucune façon. Au contraire, chacune de ces innovations lui portait un coup. Il croyait y lire l'aveu des coupables désirs de sa femme. Cette fidélité constante au maître, dont elle était si fière lorsque nous le pensions mort, elle avait à en rougir depuis qu'elle le savait en vie. et cette vergogne était la source de sa nouvelle manière d'être. Je ne dois cacher aucune vérité, et je le dirai ici nettement, ce fut, je crois, l'époque où Mr. Henry se comporta le plus mal. En public, il savait se contenir, mais on percevait en lui une irritation profonde et latente. Avec moi, il prenait moins de précautions pour la dissimuler, et se montrait souvent des plus injustes. Même avec sa femme, il lui échappait des réponses acerbes, soit qu'elle l'eût froissée par quelque amabilité intempestive, ou peut-être sans motif plausible, et par un simple épanchement spontané de l'irritation habituelle chez lui. Quand il s'oubliait de la sorte, ce qui jurait singulièrement avec les conditions de leur union, un malaise passait sur la société, et le couple se regardait avec une sorte d'étonnement douloureux. Tout ce temps aussi, outre qu'il se nuisait par ce défaut d'humeur, il compromettait sa position par un silence dont je n'ose décider s'il provenait de la générosité ou de l'orgueil. Les contrebandiers revinrent à plusieurs reprises, amenant des messagers du maître, et aucun ne s'en retourna les mains vides. Je n'osais plus discuter avec Mr. Henry. Il donnait ce qui lui était demandé avec une sorte de noble rage. Peut-être parce qu'il se savait d'un naturel enclin à la parcimonie, il prenait un plaisir pervers à fournir sans trêve aux exigences de son frère. Peut-être la fausseté de sa position aurait aiguillonné un homme moins fier jusqu'au même excès. Mais le domaine gémissait, pour ainsi dire, sous le fait. Nos dépenses quotidiennes se restreignaient chaque jour. Les écuries se vidaient. Il n'y resta plus que 4 bidets de fatigue. Les domestiques furent congédiés, ce qui fit murmurer hautement dans le pays et raviva l'ancienne animosité contre Mr. Henry. Finalement, il fallut renoncer au voyage annuel d'Édimbourg. Ceci advint en 1756. Il faut se rendre compte que depuis 7 ans, cette sangsue pompait le sang et la vie de Doris Dear, et que durant tout ce laps de temps, mon maître s'était tu. C'était en effet de sa diabolique malice que le maître s'adressait à Mr. Henry seul sur le chapitre des demandes, et qu'il n'en touchait pas un mot à Mylord. La famille avait considéré avec surprise nos économies. Elle s'était plainte, je n'en ai pas le moindre doute, que mon maître fût devenu d'une telle ladrerie, défaut toujours méprisable, mais répugnant chez les personnes jeunes, et Mr. Henry n'avait pas 30 ans. À cette époque, je crois bien que mon maître et sa femme se voyaient à peine en dehors des repas. Immédiatement après la révélation du colonel Burke, Madame Henry avait fait des avances visibles à son mari. On pourrait presque dire qu'elle lui fit alors une espèce de cour timide, en absolu contraste avec ses manières d'autrefois, indifférentes et hautaines. Je n'ai jamais eu le courage de blâmer Mr. Henry pour avoir décliné ses avances, non plus que de blâmer sa femme lorsqu'elle se piquait au vif de les voir rejetées. Mais ils devinrent de plus en plus étrangers l'un à l'autre et finirent par ne plus guère se parler, comme je l'ai dit, en dehors des repas. Même le sujet du voyage à Édimbourg fut d'abord entamé à table, et il se trouva que Madame Henry était ce jour-là souffrante et mal disposée. Elle n'eut pas plutôt compris où voulait en venir son mari que le rouge lui monta au visage. « C'en est trop à la fin !» s'écria-t-elle. « Je n'ai déjà pas tant de plaisir dans l'existence qu'on doive me priver de cette unique consolation. Il faut refouler ces honteux penchants, nous sommes déjà la risée de tout le voisinage. Je ne souffrirai pas cette nouvelle insanité. » « Je n'y puis rien, » répliqua Mr. Henry. « Rien ? » s'écria-t-elle. « Vous n'avez pas honte ? Heureusement, j'ai de l'argent à moi. »« Tout est mien, madame, de par notre mariage, » lança-t-il rageusement. Et aussitôt, il quitta la salle. Mon vieux lord leva les bras au ciel, et lui et sa fille se retirèrent au coin de la cheminée, ce qui me signifiait mon congé. J'allais retrouver Mr. Henry dans son refuge habituel, le bureau du régisseur. Il était assis au bord de la table dans laquelle il enfonçait son canif d'un air sinistre. « Mr. Henry, dis-je, vous vous faites trop de tort et il est temps que cela cesse. »« Oh ! S'écria-t-il, personne ne s'en aperçoit ici. Il se figure que c'est tout naturel, j'ai de honteux penchants. Je suis un chien d'avaricieux, et il enfonça le canif jusqu'à la garde. Mais je ferai voir à cet individu, lança-t-il avec un juron, je lui ferai voir qui est le plus généreux. Ce n'est pas de la générosité, dis-je, c'est simplement de l'orgueil. Croyez-vous que j'ai besoin de morale? Répliqua-t-il. Je crus qu'il avait besoin de secours, et que je lui en donnerais bon gré mal gré. Madame Henry ne fut pas plutôt retirée chez elle que je me présentai à sa porte et lui demandai une audience. Elle laissa voir un étonnement réel. « Que désirez-vous de moi, Mr. McKellar ? » dit-elle. « Dieu sait, madame, que je ne vous ai jamais jusqu'ici importuné de mes libertés, mais cette fois la chose me pèse trop sur la conscience, et il faut que cela sorte. Peut-on véritablement être aussi aveugle que vous et Mylord ? Peut-on vivre depuis tant d'années avec un noble cœur comme Mr. Henry, sans mieux comprendre son caractère ?»« Que voulez-vous dire ? » demanda-t-elle. « Ne savez-vous donc pas où va son argent ? Le sien et le vôtre, et l'argent même du vin qu'il ne boit pas à table ? À Paris, à cet homme ! 8 000 livres qu'il a eues de nous en 7 ans, et mon maître est assez fou pour n'en rien dire !»« 8 000 livres ? » répéta-t-elle. « C'est impossible, les revenus n'y suffiraient pas. »« Dieu sait comment nous avons usé les farthings pour faire la somme, dis-je. » Mais elle est de 8 060 et des shillings. Si vous pouvez croire après cela que mon maître est regardant, je ne me mêle plus de rien. N'en dites pas davantage, Mr. McKellar, répondit-elle. Vous avez parfaitement agi de vous en mêler, comme vous le dites trop modestement. Je suis fort à blâmer, et vous devez me croire incapable d'observation. Et elle me regardait avec un singulier sourire. Mais je veux sur-le-champ remettre les choses au point. Le maître a toujours été d'un naturel fort irréfléchi, mais il a un cœur d'or, il est la générosité incarnée. Je vais lui écrire moi-même. Vous ne pouvez vous figurer combien votre communication m'a fait de peine. J'avais espéré plutôt, madame, vous faire plaisir, dis-je, car j'étais furieux de l'avoir toujours pensé au maître. Et plaisir, dit-elle, plaisir aussi, bien entendu. Le même jour, je ne puis dire que je ne les guettais pas. J'eus la satisfaction de voir Mr. Henry sortir de la chambre de sa femme en un état qui lui ressemblait fort peu, car son visage portait des traces abondantes de pleurs et néanmoins il ne touchait plus terre. Je compris à le voir que sa femme lui avait fait amende honorable. « Ah ! Me dis-je en moi-même, j'ai fait aujourd'hui un beau coup !» Le lendemain, j'étais assis devant mes livres, quand Mr. Henry arriva doucement derrière moi, me saisit aux épaules et me secoua en manière de jeu. « Ah ! Je sais tout ! Vous n'êtes donc pour finir qu'un individu sans foi, dit-il. » Ce fut sa seule allusion. Mais il la fit d'un ton plus éloquent que toute protestation de gratitude. Et là ne se borna pas ma réussite, car lorsqu'un nouveau messager se présenta, et ce ne fut guère longtemps après, de la part du maître, il n'emporta rien qu'une missive. Depuis quelque temps, c'était moi qui traitais ce genre d'affaires. Mr. Henry ne mettait pas la main à la plume, et moi-même, je n'usais que des termes les plus secs et les plus formalistes. Mais cette épître-là, je ne la vis même point. Elle ne devait pas être d'une lecture fort agréable, car Mr. Henry se sentait soutenu par sa femme. Et je remarquai, le jour où il l'expédia, qu'il avait une expression très satisfaite. Les choses allaient mieux dans la famille, sans toutefois prétendre qu'elles allaient bien. Du moins, n'y avait-il plus désormais de malentendus, on était aimable des deux parts. Et je crois qu'un retour d'intimité n'était pas impossible entre mon maître et sa femme, s'ils eussent pu seulement, lui, mettre son orgueil dans sa poche, et elle oublier, ce qui était l'origine du mal, ses rêvasseries sur un autre homme. Ces merveilles comme une pensée cachée transpirent au dehors. Ces merveilles à présent pour moi de me rappeler à quel point nous suivions le cours de ses sentiments. Elle avait beau être d'allure paisible et de dispositions égales, nous savions toujours quand son imagination l'emportait vers Paris. Et qui ne se serait figuré voir l'idole abattue par ma révélation? C'est à croire que les femmes sont possédées du diable. Toutes ces années écoulées sans jamais revoir l'homme, bien peu de tendresse à se rappeler d'un commun accord, même du temps où il était auprès d'elle, la nouvelle de sa mort, et depuis sa rapacité sans cœur est allée à nu devant elle, que tout cela ne put suffire, et qu'elle garda toujours la meilleure place en son cœur à ce maudit individu, il y a de quoi exaspérer un honnête homme. Je n'eus jamais beaucoup de sympathie naturelle pour la passion amoureuse, mais cette démence chez la femme de mon maître me dégoûta entièrement de la chose. Je me souviens d'avoir repris une servante parce qu'elle chantait une bêtise sentimentale, tandis que j'étais dans ses dispositions, et ma sévérité me valut la rancune de tous les cotillons du château. Je m'en souciais fort peu, mais cela amusait Mr. Henry, qui me raillait souvent sur notre impopularité jumelle. La chose est singulière, car ma mère était assurément la perle des femmes, et ma tante Dixon, qui paya mes études à l'université, une femme remarquable. Mais je n'ai jamais eu grande indulgence pour le sexe féminin, ni même peut-être beaucoup de compréhension. Et comme je suis loin d'être un homme hardi, j'ai toujours esquivé leur société. Non seulement je ne vois aucun motif de regretter ma défiance, mais j'ai remarqué invariablement que les pires catastrophes frappent ceux qui ont été moins sages. C'est par crainte de m'être montré injuste envers Madame Henry que j'ai jugé utile de consigner cette mienne tournure d'esprit. Et d'ailleurs, la remarque m'est venue tout naturellement à relire la lettre qui provoqua de nouveaux événements et qui me fut, à mon grand étonnement, remise en particulier une semaine environ après le départ du précédent messager. Lettre du colonel Burke, par la suite chevalier, à Mr. McKellar. 3 en Champagne, le 12 juillet 1756. Mon cher monsieur, vous serez sans doute surpris de recevoir une communication d'une personne si peu connue de vous, mais cette fois où j'eus l'heureuse chance de vous rencontrer à Doris Deer, j'ai distingué en vous un jeune homme du caractère le plus sérieux, et j'admire cette qualité et l'estime à peine moins que le génie spontané ou la hardiesse chevaleresque du soldat. Je m'intéresse en outre à la famille que vous avez l'honneur de servir, ou plutôt dont vous êtes l'humble et respectable ami, et une conversation que j'eus le plaisir d'avoir avec vous un matin de très bonne heure ne m'est pas sortie de la mémoire. Me trouvant ces jours-ci à Paris, où je m'étais rendu, de cette cité fameuse où je suis en garnison, je m'informai de votre nom, que j'avais oublié, je l'avoue, à mon ami le maître de Ballantrae, et je saisis une occasion favorable pour vous écrire et vous mander les nouvelles. Le maître de Ballantrae, la dernière fois que nous en parlâmes, vous et moi, était titulaire, je crois vous l'avoir dit, d'une pension très avantageuse du secours écossais. On lui donna ensuite une compagnie, puis bientôt un régiment. Mon cher monsieur, je ne tenterai pas d'expliquer la chose, et non plus pourquoi moi-même, qui ai chevauché à la droite des princes, on me berne sous divers prétextes et on m'envoie pourrir dans un trou perdu de province. Accoutumé comme je le suis au cours, je ne puis ne pas m'apercevoir que l'atmosphère ici n'est point faite pour un vrai soldat, et je n'ai aucun espoir d'avancement analogue, dussé-je même m'abaisser à le solliciter. Mais notre ami a une aptitude spéciale pour réussir par les dames, et si tout ce que l'on raconte est vrai, il jouissait d'une protection exceptionnelle. Vraisemblablement, la chose s'est retournée contre lui, car lorsque j'eus l'honneur de lui serrer la main, il sortait de la Bastille, où il s'était vu enfermé sur une lettre de cachet, et malgré sa mise en liberté, il a perdu son régiment et sa pension. Mon cher monsieur, la simple franchise irlandaise me tiendra lieu ici de savoir-faire, et je suis certain qu'un gentleman de votre honnêteté sera d'accord avec moi. Maintenant, monsieur, le maître est un homme dont j'admire le génie au-delà de toute expression, et de plus, il est mon ami. Mais j'ai pensé qu'un petit mot de la révolution survenue dans l'état de ses affaires ne serait pas de trop, car à mon avis, il est désespéré. Il parlait la dernière fois que je l'ai vu d'aller aux Indes, où j'ai moi-même quelque espoir d'accompagner mon illustre concitoyen, Mr. Lally. Mais pour cela, il aurait besoin, à ce que j'ai compris, de plus d'argent qu'il n'en avait à sa disposition. Vous connaissez peut-être ce proverbe militaire. Il vaut mieux faire un pont d'or à l'ennemi qui fuit. Vous me comprenez, j'en suis persuadé. Et je me dis avec mes respects à Mylord Dury, à son fils, et à la charmante Madame Dury, mon cher monsieur, votre humble et obéissant serviteur, Francis Burke. Je portai sur le champ cette missive à Mr. Henry. Nous eûmes tous deux la même pensée. Elle arrivait une semaine trop tard. Je me hâtai de répondre au colonel Burke et le prier, au cas où il verrait le maître, de lui garantir que son prochain messager recevrait satisfaction. Mais j'eus beau me hâter, j'arrivai trop tard et je ne pus détourner le coup qui nous menaçait. La flèche était décochée, elle devait atteindre son but. Ce serait à se demander si la Providence a le pouvoir, ou plutôt la volonté, de prédéterminer le résultat des événements, car il est étrange de songer combien chacun de nous a accumulé, pendant longtemps et avec une aveugle ignorance, tous les éléments d'une catastrophe. Depuis la réception de la lettre du colonel, j'avais une longue vue dans ma chambre et posais des questions aux tenanciers. Comme les contrebandiers ne se souciaient guère du secret et qu'ils exerçaient leur métier par force autant que par ruse, du moins dans nos environs, j'eus au fait de connaître les signaux en usage, et je sus à une heure près quand il fallait attendre un messager. Je questionnai, dis-je, les tenanciers, car avec les fraudeurs eux-mêmes, affreux gredins qui allaient toujours armés, j'aurais difficilement pris sur moi de me frotter à eux. En fait, et la circonstance par la suite fut heureuse, j'étais un objet de risée pour quelques-uns de ces bravaches. Non seulement ils m'avaient gratifié d'un sobriquet, mais ils m'attrapèrent un soir sur un chemin de traverse, et comme ils étaient tous, selon leur expression, un peu gais, ils me contraignirent à danser pour leur amusement. La méthode employée consistait à taillader les bouts de mes chaussures avec leurs coutelas nus, en criant « Boucaré !». Je n'en subis aucun mal physique, mais n'en fus pas moins déplorablement affecté, et dus garder le lit plusieurs jours. Scandaleux échantillon de l'état de l'Écosse, sur lequel il est inutile d'insister. Dans l'après-midi du 7 novembre de cette malheureuse année, il m'arriva, tout en me promenant, de remarquer un feu sur le Muckle Ross. L'heure de mon retour approchait, mais j'avais l'esprit si inquiet ce jour-là que, m'élançant à travers les buissons, j'escaladai la pointe nommée Craighead. Le soleil était déjà couché, mais il subsistait à l'occident une vaste luminosité qui me laissa voir sur le Ross quelques contrebandiers occupés à entretenir leur signal et dans la baie, le lougre immobile sous sa voile carguée. Celui-ci venait évidemment de jeter l'ancre, mais la yole était déjà mise à l'eau et faisait force de rame vers le débarcadère à l'extrémité de la Grande Charmille. Et cela, je le savais, ne pouvait signifier qu'une chose, la venue d'un messager à Durisdeer. Oubliant mes autres craintes, je dévalai la pente abrupte où je ne m'étais jamais aventuré et parvins à me cacher parmi les buissons du rivage assez tôt pour voir aborder la yole. Contrairement à son habitude, le capitaine Crail lui-même tenait la barre. Auprès de lui était assis un passager et les hommes manœuvraient avec difficulté, encombrés qu'ils étaient par une douzaine de valises, grandes et petites. Mais l'affaire de les débarquer fut menée rondement, et bientôt le bagage fut empilé sur la rive. La yole s'en retourna vers le lougre, et le passager resta seul sur la pointe du roc. C'était un grand et svelte gentleman vêtu de noir, l'épée au côté et la canne de promenade au poignet. Il agita sa canne dans la direction du capitaine Crail, en guise d'adieu, et avec un mélange de grâce et de raillerie, qui grava profondément le geste dans ma mémoire. La yole ne se fut pas plutôt éloignée avec mes ennemis jurés que je retrouvai une partie de mon assurance, m'avançai sur la lisière des buissons et fit halte de nouveau, partagé entre ma défiance naturelle et un sinistre pressentiment de la vérité. J'aurais pu rester là toute la nuit à balancer, mais l'étranger se retourna, m'aperçut dans la brume qui commençait à se lever, et me fit signe en me criant d'approcher. Je lui obéis, mais mon cœur était de plomb. « Voici, mon brave, dit-il avec l'accent anglais, voici quelques objets pour Doris Dear. » J'étais alors assez près de lui pour distinguer ses traits fins et son visage brun, mince et allongé, son regard vif, alerte et sombre, qui décelait l'homme de guerre et l'habitude du commandement. Il avait sur la joue une envie qui ne lui seyait pas mal. Un gros diamant étincelait à son doigt. Ses habits, quoique de couleur uniforme, étaient d'une coupe et d'une élégance française. Ses manchettes, plus longues qu'il n'est d'usage, de dentelles très fines, et je m'étonnais d'autant plus de le voir en si bel appareil qu'il venait de débarquer d'un sale lougre de contrebandier. Après m'avoir mieux examiné, il me toisa une seconde avec sévérité, et puis sourit. « Je gage, mon garçon, dit-il, que je connais à la fois votre nom et votre surnom. J'avais deviné à votre écriture cette façon de vous vêtir, Mr. McKellar. » À ces mots, je me mis à trembler. « Oh, dit-il, vous n'avez pas à avoir peur de moi. Je ne vous en veux pas pour vos ennuyeuses épîtres, et j'ai l'intention de me servir beaucoup de vous. Vous m'appellerez Mr. Bally, c'est le nom que j'ai choisi. » Ou plutôt, car je parle à un grand formaliste, c'est ainsi que j'ai abrégé le mien. Allons, attrapez ceci et cela, et il m'indiquait deux des valises. C'est tout ce que vous êtes capable de porter, et le reste peut fort bien attendre. Allons, ne perdons pas de temps, s'il vous plaît. Son ton était si tranchant que je lui obéis comme par une sorte d'instinct, bien que mon esprit demeurât entièrement éperdu. Dès que j'eus empoigné les valises, il me tourna le dos et se mit en route sous la grande charmille, où déjà il commençait à faire noir, car le bois est épais et toujours vert. Je suivais, pliant sous ma charge, bien que je n'eusse pas conscience du fardeau. J'étais absorbé dans la stupéfaction de ce retour, et mon esprit oscillait comme une navette de tisserand. Soudain, je déposai les valises sur le sol et m'arrêtai. Il se retourna pour me regarder. « Eh bien, dit-il, vous êtes le maître de Ballantrae. Vous me rendrez cette justice, dit-il, que je ne me suis pas caché de l'astucieux McKellar. Et au nom de Dieu, m'écriai-je, que venez-vous faire ici? Retournez, il en est encore temps. Non, merci, dit-il. Votre maître a choisi ce moyen, pas moi. Mais ayant fait ce choix, il doit... et vous aussi, en subir les conséquences. Et maintenant, ramassez mes affaires que vous avez déposées dans un endroit fort humide, et occupez-vous de la besogne dont je vous ai chargé. » Mais je n'avais plus aucune intention d'obéir. Je m'avançai jusqu'à lui. « Si rien ne peut vous faire retourner, dis-je, quoique à tout point de vue un chrétien ou un simple gentleman se ferait scrupule d'avancer, « voilà des expressions flatteuses, interrompit-il. Si rien ne peut vous décider à repartir, continuai-je, il y a néanmoins des convenances à respecter. Attendez ici avec votre bagage, et j'irai en avant préparer votre famille. Votre père est vieux et... j'hésitais. Il y a des convenances à respecter. » « En vérité, dit-il, ce McKellar gagne à être connu. Mais écoutez un peu, mon garçon. » Et comprenez-le une fois pour toutes. Vous perdez votre salive avec moi, et je vais droit mon chemin, d'une force inéluctable. Ah, dis-je, c'est ainsi? Eh bien, nous allons voir. Et, faisant volte-face, je courus à toutes jambes vers Doris Dear. Il tâcha de me retenir avec un cri de colère, et puis je crois que je l'entendis ricaner, et je suis certain qu'il me poursuivit deux ou trois pas et sans doute y renonça. Mais le fait est que j'arrivai quelques minutes plus tard à la porte du château, hors d'haleine et seul. Je montai l'escalier 4 à 4, fis irruption dans la salle et m'arrêtai en présence de la famille, incapable de parler. Mais on devait lire dans mes yeux toute l'histoire, car ils se levèrent de leur siège et me regardèrent médusé. Il est venu, haletais-je enfin.
Lui ?
Demanda Mr. Henry.
Lui-même, dis-je.